France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pour se mettre à table, pour se mettre à la lecture, il faut de l'appétit. Toute littérature de qualité est digne d'être lue à haute voix. Un livre de cuisine peut-il se donner à entendre ? Évidemment. Une lecture qui donne de l'appétit est le plaisir anticipé de la dégustation. Première diffusion de ce plaisir de la lecture, le 20 juin 1961, sur France 3 Nationale.
Plaisir de la lecture.
Plaisir de la lecture dans un livre ancien de cuisine ou, enfin, de la cuisine abstraite. Aujourd'hui se présente pour le plaisir de sa lecture un livre ancien de cuisine dans lequel Mademoiselle Philippine Pascal de la Comédie Française nous lira un grand dîner.
La cuisinière, suivie de l'office, à l'usage de tous ceux qui se mêlent de dépenses de maison, contenant la manière de disséquer, connaître et servir toutes sortes de viandes, nouvelle édition, augmentée de plusieurs ragoûts des plus nouveaux et de différentes recettes pour les liqueurs. À Bruxelles, chez François Fopens, imprimeur-libraire, 1774.
Si vous permettez, pour l'amour de lire, qu'on se lise un dîner, prêtez-vous aux métamorphoses d'une lecture sans tenir vos casseroles attentives. En fait de cuisine, c'est toujours lui, le livre, celui-ci ou un autre, qui nous assaisonne. Lire, vous vous accommodez selon le texte, vous vous figurez, vous devenez donc ce que disent les mots. Ainsi, par la baguette qui frappe comme 400 Dior sur Cendrillon, un lecteur qui n'est pas charmé à tout coup ne sait pas lire la pantoufle de verre. Il en a perdu le fil. Lire, c'est presque vivre comme c'est écrit. Et le plaisir ? Personne de la lecture d'un fait divers ne réchappe auréolé. À l'opposite, une page de Descartes, une page de Bossuet, voilà le plaisir. Mauvaise plaisanterie ? Pas si mauvaise. Ce genre de page peut beaucoup. Sûrement, elle vous réclame, pour se laisser lire, une petite fortune intérieure. Mais elles vous la font fructifier. Et voilà justement le plaisir. Qui s'astreint à cette réglementation réfléchie, prescrite par un Bossuet, vous prend un élan dans le spirituel, semblable à l'animation des corps au gymnase. Eh bien, nous lisons ou dînons à nos frais spirituels comme gage de plaisir. D'une gymnastique plus courte, certes, moins distinguée qu'en haute voltige avec Bossuet, essayons de nous contenter de cuisine abstraite et de trouver quelques régals à ce que nous disent des recettes culinaires bien dites. Dîner ou lire veut d'abord l'appétit ou malheur, ou sinon, quel plaisir. Chez nous, sur cuisine abstraite, doit anticiper appétit idéal. C'est pourquoi ne tergiversons pas à nous ouvrir un appétit conçu à notre convenance.
Convenons que la virtuosité de ces chefs, qui vous tirent du feu à la bouche de somptueux grands goûts, ne nous inspire pas d'animosité, mais, pour commencer, n'y pensons pas. Afin de connaître une appétition pure, une boulimie éthérée, tournons-nous, vers ce qui demande le moins de mâchoire. Les fruits. Les fruits parfaits. Secret de la cuisine céleste. Ces délices, quintessenciés au charbon du ciel, conviennent à nos désirs épurés. D'ailleurs, où se cache le baiser qui vaut, sur la bouche, l'écrasement de la figue cardinale? La chair des fruits est aux autres viandes ce que l'ange est à l'homme. Et néanmoins, franchement, c'est dévorer des yeux la seule manière qui nous ressemble. Alors, ce n'est pas à ces fruits-là que vise notre attention gourmande. Elle s'attache, en définitive, aux fruits d'élixir lumineux, à ceux qui abondent en eau vive et qui vous tiennent immédiatement la liquide intensité qu'ils promettent, fruits de pierrerie, gemmes qui rutilent aux compotiers dans les palais d'Aladin. Là, la concupiscence s'extasie autant qu'elle s'avive à téter la liqueur de verrerie inextinguible.
Mademoiselle, nous y sommes. La convoitise des fruits de verre nous ouvre au dîner par cœur de votre petit livre. Goûtons-en ce qu'il vous plaira.
J'entends vous faire envisager d'abord, pour quelques-uns de nos plats, trois ou quatre ressources de ma table des matières. Nous établissons ensuite nos services et enfin je vous montrerai les casserolets principales. Je commence par dire trois potages. Potage de croûte à la purée verte, potage à la vierge, potage à l'eau pour la collation.
Oh, cette eau à moi m'éteint les sucs. Votre potage à l'eau semble tiré des fréquents potages Purgon et compagnie. Il n'en est pas. Oui, pour la collation, j'oubliais. Un potage de croûte à la purée verte a les charmes d'un douanier Rousseau. L'irrésistible est celui à la Vierge. Est-ce d'entendre là-dessous, comme dit votre tante du côté de Molière, un million de mots et une chose encourageante? À la Vierge, c'est dit.
Écoutez des entrées. Culotte de bœuf à la pluche verte, charbonnée de bœuf en papillote, œufs à la duchesse, ou anguille au montant de laitue romaine.
Oh, plutôt deux fois la pluche verte pour la pluche verte. Et sûrement les œufs à la duchesse, puisque vous nous les garantissez là à la manière des plus belles manières françaises.
Comme plat de rôt, gigot à la sultane, cochon de lait par quartier au père Douillet, ruelle de veau à la couane.
Wow.
Poularde à la chia.
Fille, taisez-vous, ça va. Fille, quelle sottise.
La chia est une espèce de cornichon qui nous vient des Indes. Vous la coupez par tranches et la faites tremper un quart d'heure dans l'eau presque bouillante. Ensuite, égouttée, vous la mettez dans une sauce au coulis pour la servir sur une poularde cuite à la broche.
Ah, mais alors... Ah, mais... Qui pouvait s'en douter?
Mais n'en parlons plus. Disons, une poularde au blanc mangé. Et des poulets au réveil que nous accompagnerons de racines en menu droit, d'un ragoût de truffes et d'un chou en surprise. Et au moment du fruit, quatre desserts. Une compote de poire de Martin sec ou de Messire Jean entier, un poupelin, des beignets de pain à chanter et une crème bachique.
Vous dites là une sensation admirable. Une crème bachique. Tout ce que ça inspire à beaucoup de dégoûtants, l'idée d'une crème. Leur recul devant cet écoulement. Une crème. Qu'ils associent à de si lourdes complaisances salivaires et même aussi à une mouche dedans. Et mouche même souvent qui ne se révèle qu'au pharynx. Trop tard, elle a passé. Ces répulsions-là se trouveraient révoltées de manière splendide avec des faits et gestes bachiques. Est-il possible? Les exagérations du vin, quoi, les saltations, caracolades stridentes, coups de chant, allégresse et honté, ils seraient donc pris dans votre crème? Eh bien, c'est beau. C'est beau comme ce corneille, l'obscure clarté qui tombe des étoiles, ou bien le soleil noir d'où rayonne la nuit. C'est fou, mais c'est beau. C'est fou, et pourtant, quelle politique! À droite, un coup de frein sur les bacchantes qui viennent s'amortir dans la crème. À gauche, l'éternel morfondu dans la praline qu'on nous spiritualise. Elle me tarde, votre crème.
Il se peut. Ne me désordonnez pas mon histoire en vous jetant sur la fin, je vous en prie. Je n'ai pas encore pu placer un hors-d'œuvre. Qu'est-ce que je dis? Même pas l'ordonnance des services. Continuons. Nous aurons fini que nous n'aurons même pas commencé. Mes services! Table de 12 couverts à dîner. Premier service. 2 potages.
12 couverts? Vous lisez pour 12? Mais nous sommes 1000, 100 000 à tabler à votre écoute. Il faut compter pour une table où nous sommes légions.
Table de 12 légions de couverts à dîner. Premier service. 2 légions de potages. Et ainsi de suite, multipliez tout par une légion. Une pièce de bœuf pour le milieu. 4 hors-d'œuvre. Second service. Laissez la pièce de bœuf au milieu et mettez à la place des 2 potages et des 2 hors-d'œuvre. 4 entrées. Troisième service. 2 plats de roux, 3 entremets, 2 salades. Quatrième service. Dessert. Pour le milieu, une jatte de fruits crus. Et je présente tout de suite un hors-d'œuvre. Filet de lapereau au concombre. Tout ce que j'ai à en dire, vraiment c'est l'essentiel. Se connaître en lapereau. Et voici comme. Pour connaître un lapereau avec un lapin, il faut le tâter sur le dos des pattes de devant, au-dessus du joint. Si vous y trouvez une grosseur comme une petite lentille, c'est une marque qu'il est jeune. Vous les connaissez encore à la tête parce qu'ils ont le nez plus pointu et l'oreille plus tendre. Cette remarque n'est point si sûre que celle de la patte. Pour le fumet, il faut les flairer au ventre et l'usage vous apprendra à connaître les bons.
Dites-moi, ayez de la morue? Il la faut bien choisir. La bonne morue se voit à la chair blanche, une peau noire. Il faut la laver dans un chaudron avec de l'eau de rivière. Lavez-la par feuillet, ou lavez-la entière si vous voulez. Mais la façon n'est pas si propre. Prenez l'endroit de la morue que vous voulez. Faites-le cuire à l'eau, prenez-en les plus grandes feuilles pour les tremper dans une pâte avec de la farine, du vin, un peu d'huile et très peu de sel. Faites frire, servez garni de persil frit, vous servez là votre morue en beignet.
C'est bien, mais y a-t-il bon cousinage de la morue et du lapereau? Et pour la suite d'ailleurs, avons-nous bien veillé à la concorde de nos nourritures? L'inquiétude me pique que vous et moi, on organise enfin une de ces sorties de table où, sitôt en pied, chacun rattrape sa chaise en se portant la main au cœur avec les assurances de s'être ingurgité une harpie vivante.
Ah, bien, beau souci. Faut-il vous rappeler que dans notre cinéma alimentaire, nous ne sommes que pour donner le courant, pendant que dans sa petite mentalité, chacun projette à son goût les fantômes de saveurs de notre cuisine. Tenez, la meilleure réponse à cette tracasserie, c'était encore de verser sans réplique, tout chaud, tout bouillant, votre cher potage à la Vierge. Vous vous servez d'un bouillon ordinaire. Vous prenez le plus gras de ce bouillon, environ une chopine, pour le mettre à bouillir quelques bouillons sur un fourneau, avec un demi-septier de lait et de la mie de pain de la grosseur d'un œuf. Prenez du blanc de volaille cuit à la broche, que vous pilez bien fin dans un mortier avec quelques amandes douces et 6 jaunes d'œufs durs. Quand le tout est bien pilé, mettez-y le bouillon ou la mie de pain et passez le tout dans une étamine en y ajoutant un septier de crème de lait épaisse. Vous le tiendrez bien chaud au bain-marie. Faites ensuite mitonner votre potage avec des croûtes bien chapelées et un peu de bouillon. Quand vous êtes prêt à servir, vous mettrez votre coulis bien chaud dans le potage sans le bouillir, parce qu'il tournerait.
Ce qui me passe dans cette manigance, c'est qu'on suppose à cette Vierge justement autant de lait.
J'ai retenu jusqu'à ici une chose comme entrée qui vous dira merveille. De petits jambons de vipère.
Des jambons ? Était-ce donc la réponse au « pour qui ?» Pour des jambons. Pour qui donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Pour des jambons. Mais cette alliance n'est guère équitable. Elle profite seule aux jambons. Le grand souffle racinien peut passer dessus, il les idéalise. Mais la laine des jambons, en retour, est très malhonnête.
Je ne sais pas. Un tel manger, ce sont de petits jambons vermeils, fort rares, qui se font de cochons renfermés dans des espèces de petits parcs, remplis de halliers où tout fourmille de vipères, dont ces cochons se nourrissent uniquement. Ces jambons ont un parfum admirable et un goût si relevé et si vivifiant qu'on en est surpris et qu'il est impossible de manger rien de si exquis.
Oui, vous pouvez dire avec Saint-Simon que vous nous faites là un souper abondant, plein de joie et de politesse, bien et magnifiquement servi.
Quant à la culotte de bœuf, décidément, mettons-la à la cardinale. La culotte est la pièce la plus estimée du bœuf. Elle fait honneur sur une table pour une pièce de mille lieues. Vous prenez une belle culotte de 10 à 12 livres que vous désossez à forfait. Coupez une livre de lard en lardons que vous maniez avec de fines épices. Lardez-en la culotte partout. Ensuite, vous prenez un demi-quarteron de salpêtre pulvérisé et en frottez la chair pour la rendre rouge. Mettez la culotte dans un vaisseau avec une once de genièvre un peu concassée, 3 feuilles de laurier, un peu de thym et de basilic, 1 livre de sel. Couvrez votre vaisseau et y laissez la viande pendant 8 jours. Quand elle a pris sel, lavez-la avec de l'eau chaude. Enveloppez la culotte dans un torchon blanc que vous aurez mouillé, et puis pressez-la bien pour qu'il ne sente point un goût de lessive. Ficelez ensuite la culotte dans le torchon, faites-la cuire à petit feu pendant 5 heures avec 3 chopines de vin rouge, 1 pinte d'eau, 5 ou 6 oignons, 2 gousses d'ail, 2 panais, le quart d'une muscade, 6 boules. Quand elle est bien cuite, vous l'ôtez du feu et la laissez refroidir dans sa cuisson jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait froide. Je me suis assez étendue sur le bœuf pour aimer à dire quelque chose de plus tendre sur la volaille. Toute la volaille doit être plumée sitôt qu'elle est tuée. Il ne la faut point mettre dans l'eau chaude pour la plumer. Est-ce plume à sec? Il ne la faut vider qu'après qu'elle est flambée. Vous la flambez sur un fourneau bien allumé de charbon, et il faut la passer légèrement sur la flamme, qu'elle n'ait que le temps de se brûler les poils.
Ce qui nous a conduit à l'événement des poulets au réveil. Le réveil nous en dit tout, la façon, le résultat. À qui la bouche a affaire, la chair valeureuse, le jus enflammé, tout découle du chant de réveil sur un plat d'argent d'une bête si matinale. Et la poularde au blanc mangé, c'est de même. Son bien parlé nous la tient cuite à point. En écossant les mots du blanc mangé, la poularde se révèle. Dans ce manger en blanc, l'infinitif substantivé garde si fort l'activité du verbe qu'il vous met une dent délicate en chemin sur l'ivoire tendre de morceaux imbus d'arômes potagers et des subtilités d'une farce intime.
Tirez un peu du jus des poulets pour en nourrir les racines en menu droit. Prenez de l'oignon que vous coupez en filets, faites-le cuire dans un petit roux fait avec de la graisse du pot et de la farine. Quand l'oignon est presque cuit, mouillez-le du jus tiré des poulets et le rachevez de cuire. Vous avez ensuite des carottes, panais, céleri, le tout cuit dans le pot. Coupez-les proprement en filets et les mettez dans le ragoût d'oignon. Assaisonnez-les de sel et gros poivre, un filet de vinaigre. En servant, mettez un louchon de moutarde.
Nous risquerions-nous à finir sur de la moutarde? Jusqu'à présent, on la reproche seulement après dîner.
Nous n'y pensons pas. mais à nous entraîner dans une guirlande à la manière de notre crème bachique.
Que viennent donc à l'instant des sorbets, mais avec des violons qui nous scient dans tous les sens, parmi les essaims du champagne, notre pesanteur enfin s'élève.
Tenez donc des pistaches et des marrons blanchis.
Deux gorgées, une bouchée, une amande.
Une gorgée de champagne et du sorbet au citron, qui se médite à la petite cuillère, et une lèvre, encore, au champagne.
Je l'avoue sans vergogne, je les aime, les verroteries du champagne, les tonnerres du crament qu'on offre le dimanche, rue Barbet de Jouy, ou la Clicquot de 1917, ambre et musc, les vieilles soieries du rose que sort sans façon Valentine le jeudi, tout ça, des brises. Parlez-moi des coups de bec et de serre de vos alcools rapaces, mais au champagne, la déraison ne trouve pas son compte. A-t-on les idées un peu irrésistibles? Ce serait tout le hic. Buvez.
Allons, buvez. Vous décollez de terre, vous éclairez, vous bondissez, vous sublimez. Autant de verres en l'air, autant de lest en bas, de toits en haut, de bougies dans le ventre, de jambes au cou. Les rasades vous portent à vos cimes sous le nez des comparses, et les esprits, corps à corps, dansent à tout crin Voltaire à quatre sur Paganini.
Au moment de fermer le livre, on s'aperçoit d'un coup d'oreille rétrospectif, mais un peu tard, que le plaisir n'est pas du tout sûr pour nos convives. Quand à l'avenir de nos nourritures, le certain, il le proclame, cet admirateur de sardines qui s'écrit sans pudeur sur une boîte à l'huile d'entrelle.
Si légère!
Je les digère.
Notre émission était consacrée à un livre ancien de cuisine. Mademoiselle Philippine Pascal de la Comédie-Française nous a lu quelques pages de ce livre. Le texte conducteur était lu par René Clermont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 nationale le 20 juin 1961.